parler aujourd'hui du changement climatique qui est d'actualité puisque, vous le savez sûrement, se tient en ce moment une conférence internationale sur la question. Elle se tient où? Ici? Non. À Cancun, oui, bravo. Donc vous êtes bien au courant. Alors, on va aborder les aspects internationaux, mais je vais commencer par vous parler de l'aspect plus physique, climatologie, puisque c'est ce que vous étudiez cette année. Donc voilà à peu près le plan que nous allons suivre. On va commencer par expliquer le système climatique, comment il fonctionne, qu'est-ce que l'effet de serre. On va voir quels sont les gaz incriminés dans le problème du changement climatique et puis les causes sociales et économiques. On ne va pas faire que de la science physique, on va aussi parler du social et aussi des conséquences. En fait, quel est le vrai problème du changement climatique? Qu'est-ce qui risque de se passer? Et comment on peut essayer de résoudre ce problème avant qu'il n'atteigne un niveau dangereux pour l'espèce humaine et la Terre? Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, j'espère. Moi, je ne suis pas climatologue, hein, je suis physicienne, donc je ne connais pas très bien la climatologie. Vous pourrez me poser des questions dessus, mais pas trop. Vous pourrez me poser des questions plus sur l'aspect solution, sur l'énergie, etc. Mais je vais quand même vous parler du climat dans son aspect changement climatique. Donc on sait que le système climatique est quelque chose de très complexe, que les climatologues tentent de définir plus précisément chaque année, et ils y parviennent de mieux en mieux, même si on en doute parfois quand ils nous prédisent la météo et qu'ils se trompent à quelques heures près. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut savoir qu'on prend en compte énormément de choses, que ce soit les gaz et les particules volcaniques dans l'air, que ce soit l'état des nuages, de la couche nuageuse, de l'évaporation de l'océan, de l'évaporation des végétaux, des activités humaines. Et toutes ces interactions sont extrêmement complexes et on essaie de les modéliser par informatique pour prévoir le climat ou pour observer le climat passé. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le changement climatique qu'on appelle aussi l'effet de serre. Donc, qu'est-ce que l'effet de serre? Quelqu'un veut prendre la parole et nous l'expliquer? Oui. Ah, c'est un peu courageux là, de venir devant tout le monde, mais il n'y a pas de souci. Oui? Ah, si vous voulez, ouais. Rapidement.
Ouais. Alors, l'effet de serre, c'est quand une partie de la chaleur n'est pas envoyée en dehors de l'atmosphère, qu'elle est retournée vers la Terre, et ainsi de suite. C'est en fait, comme j'avais dit en cours, c'est une espèce de fibre optique géante qui est autour de la Terre.
C'est parfait. Merci beaucoup. Donc on l'appelle effet de serre en référence à ce qui se passe dans la serre d'un jardinier. Donc il faut imaginer que la Terre est prise dans une serre et qu'effectivement les rayons du soleil pénètrent. Donc les rayons du soleil, c'est principalement de la lumière visible, de l'ultraviolet et un peu d'infrarouge. Et quand ils arrivent à travers l'atmosphère, ils vont réchauffer la Terre et l'infrarouge, donc cette chaleur, va être bloquée par la couche de l'atmosphère où sont situés les gaz à effet de serre. On va voir ça un peu plus en détail. Donc si vous voyez ce rayonnement solaire, il y en a une partie qui est renvoyée dans l'espace et une partie qui arrive sur Terre. Et donc quand elle arrive sur Terre, elle réchauffe la Terre et donc on peut sentir en nous parfois la chaleur de la Terre qui repart. Et c'est cette chaleur-là, cet infrarouge, qui est piégée. Une partie repart quand même dans l'espace, mais au final, une grande partie reste sur Terre. Et heureusement, parce que sans l'effet de serre, il ferait moins 18 degrés en moyenne sur Terre. Donc la vie ne serait pas possible, ou en tout cas pas telle qu'elle l'est et telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et grâce à l'effet de serre, on a une température moyenne de 15 degrés environ sur Terre. Le problème, c'est que, si on revient sur la diapo d'avant, les activités humaines modifient la composition des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc j'aime bien ce dessin parce qu'on voit un petit peu tous les aspects des activités humaines qui ont des répercussions sur ces gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas les voir, nous, à l'œil nu, les gaz à effet de serre qu'on émet. Mais en fait, là, si on mettait des colorants dans l'air pour montrer les gaz à effet de serre, on verrait que quand on respire, par exemple, on émet du CO2. Quand on... On émet du méthane. Ouais. Et puis donc, les voitures, les usines, les champs, les animaux, les vaches, tout ça, il y a des gaz à effet de serre partout. Et on a constaté, du moins les climatologues, ont constaté que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère était intimement liée à la température qu'il faisait sur Terre. Donc c'est un phénomène physique assez simple. Les particules de gaz à effet de serre, on va revenir là, donc sont dans la couche de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère, et donc elles vont piéger le rayonnement à l'intérieur de cette couche-là. C'est quelque chose de mécanique, finalement. Mais en dehors de le savoir mécaniquement, on l'a observé avec des mesures dans les glaces arctiques, parce qu'en fait, les gaz, notamment le gaz carbonique, est piégé à l'intérieur de ces glaces, et quand on va forer en profondeur, on peut remonter à plusieurs milliers d'années et regarder quelle était la composition de l'atmosphère à différentes périodes. Et c'est ainsi qu'on peut effectuer des courbes. Et les courbes, donc, nous apprennent la concentration de gaz carbonique à différentes époques, et on peut aussi remonter à la température terrestre. Et on voit que ces courbes sont complètement liées. Donc, on remarque aussi que ces variations sont à peu près naturelles. Elles ont eu lieu depuis plusieurs milliers d'années, et le fait que le climat change, c'est quelque chose de normal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la concentration de CO2 dans l'atmosphère est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'a jamais été. Et donc, si la température suit cette évolution, on risque d'aboutir à quelque chose d'exceptionnel. Alors, je fais une parenthèse là pour vous expliquer la différence entre la couche de gaz à effet de serre et la couche d'ozone. Parce que c'est deux choses qu'on confond souvent. Donc là, sur ce schéma-là, vous pouvez voir que ça se passe à différents niveaux. Donc vous avez la troposphère, c'est la couche dans laquelle nous vivons, qui est entre le sol et 12 km. Vous avez la stratosphère, la couche dans laquelle il y a les gaz à effet de serre, et vous avez au-dessus la couche d'ozone. Et en fait, le trou dans la couche d'ozone dont on parlait, parce qu'on en parle de moins en moins, parce que le problème est plutôt en train de se résorber, était lié à des gaz qu'on appelle les CFC, chlorofluorocarbonés. Et c'était par exemple nos pulvérisateurs de toilettes, en fait toutes les bombes qu'on utilise, déodorants, etc., contenaient ce genre de gaz-là. Donc ils ont été supprimés petit à petit. C'est pour ça que le coût dans la couche d'ozone est en train de se résorber. Par contre, il y a un autre ozone qui est l'ozone des voitures. Vous savez, l'été, quand on dit attention, pique à l'ozone, circulez moins vite, parce qu'en fait, les gaz d'échappement des voitures, au contact des rayons violets, ultraviolets, se modifient et deviennent de l'ozone. Mais c'est de l'ozone de basse altitude qui est effectivement nocif pour les êtres vivants. Et ce n'est pas pareil que l'ozone de haute altitude qui, lui, est bénéfique pour la couche d'ozone. Voilà la différence. Par contre, ces deux choses sont extrêmement liées puisque les CFC ont été remplacés par des HCFC, qui est une autre molécule moins nocive pour la couche d'ozone, mais qui est un gaz à effet de serre très puissant. Donc en fait, en essayant de réparer le problème de la couche d'ozone, on a continué à aggraver le problème de l'effet de serre. Alors, donc on a vu que le climat changeait. On voit aussi, tous les jours, en mesurant avec la météo, depuis plusieurs dizaines d'années, que la température change et que la montée des eaux augmente, etc. Donc, par exemple, vous avez ces chiffres-là, puisqu'on fait des mesures à peu près depuis 1850. Et donc, depuis 1850, on a constaté que la température mondiale avait augmenté de 80 degrés. De 0,80 degrés, pardon. Pas 80. 0,80 degrés. Et que les eaux étaient montées de 20 cm. Ça, c'est des mesures concrètes. Donc, on voit effectivement que ça change. On remarque qu'on est environ à 0,19 degrés par dizaine d'années et 3,4 mm de montée des eaux depuis 15 ans, à peu près par an. Et on remarque aussi, puisqu'on peut mesurer la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qu'on a 40% de plus depuis 90. Donc tout ça, c'est des choses factuelles qu'on peut vraiment mesurer. Donc est-ce que ça vous semble beaucoup 0,80 degrés, 0,8 degrés? Ouais. Comparé à l'écart de température qu'on a entre l'hiver et l'été, par exemple, on se dit c'est pas énorme, ça va pas jouer. Mais en fait, c'est considérable à l'échelle planétaire. Il faut savoir que le climat, comme je vous l'ai montré sur la courbe, changeait de manière normale de 0,1 degré tous les 1000 ans environ. 0,1 degré tous les 1000 ans. C'était les fluctuations normales du climat. Et là, on voit qu'on a 0,8 degré en 150 ans. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est effectivement ce qui caractérise le changement climatique, c'est sa rapidité. C'est un changement qui est fulgurant par rapport à ce qu'a pu connaître la planète depuis 400 000 ans, 500 000 ans, depuis qu'on peut mesurer à peu près les températures. Et puis, un autre chiffre, il faut savoir que la période glaciaire qui a eu lieu, vous savez quand? La grande période glaciaire, la dernière. C'était quand? C'était à l'époque du néolithique, donc environ moins 10 000 ans. Et à cette époque-là, donc il y avait des mammouths, il y avait de la glace partout, et il y avait tellement de glace qu'on pouvait traverser la Manche. On pouvait aller en Angleterre à pied sur la glace. Et ça, il n'y avait que 4 degrés de différence par rapport à aujourd'hui. Donc, autre observation, vous avez ici deux photos donc, qui montrent les glaciers du Rhône entre 1910 et aujourd'hui. Donc, on observe vraiment que la fonte des glaciers est en train de se faire. Vous avez la mer de glace ici, vers Chamonix. Vous avez le Kilimandjaro en Afrique, les fameuses neiges du Kilimandjaro. Entre 1993 et 2006, et vous avez l'Arctique, avec ces grosses calottes de glace qui régulièrement s'effondrent et diminuent de plus en plus la surface de la glace en Arctique. Une autre constatation, on peut mesurer en fait le débit du Gulf Stream. Vous connaissez peut-être ce Gulf Stream, c'est celui qui nous permet d'avoir un climat plutôt agréable en Europe. Parce que s'il n'existait pas, vous voyez là, le rouge à côté de la France, eh bien il ne serait pas rouge, il serait bleu, et on aurait le même climat que le pays en face qui est de l'autre côté, le Canada, le Québec. Sans Gulf Stream, eh bien, ce serait le climat du Québec qui serait plutôt en France. Et on remarque que ce débit du Gulf Stream diminue régulièrement chaque année. Aujourd'hui, on a remarqué qu'en 10 ans, il avait réduit de 20%. Donc, quelles sont les causes du changement climatique? On va voir ça maintenant, puisqu'on vient de voir les constats, les observations. Un bref rappel chronologique, pour votre culture générale. C'est pas nouveau, ça fait bien longtemps que les savants remarquent que le climat change et que l'homme en est responsable. Le premier en date a été Antonio Stoppani, qui en 1873 prédigeait déjà que nous allions rentrer dans une nouvelle ère, modifiée par les activités humaines, et que l'homme pouvait modifier le climat. Je veux bien un peu d'eau, en fait. Si quelqu'un a de l'eau? Non. J'ai la gorge. Je ne vais pas réussir à parler, vous allez devoir continuer sans moi. C'est le premier, Svante Arrhenius, à avoir remarqué la corrélation entre la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère et la température de l'atmosphère. Et puis on voit que c'est vraiment beaucoup plus tard qu'est établi le GIEC. Vous connaissez le GIEC ? Je veux bien que quelqu'un l'explique, comme ça je pourrais boire un coup pendant ce temps-là. Quelqu'un veut nous parler du GIEC ? On n'a pas un deuxième courageux ? Oui ? Vous pouvez venir. Non ? Oui ? Sur l'évolution du climat.
Sur l'évolution du climat.
Bonjour. Alors, en fait, le GIEC, ça veut dire groupe. Ça veut dire gouvernemental sur l'évolution du climat.
Alors, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il travaille?
C'est l'ONU qui a mis ça en place, non?
C'est ça.
Alors, c'est l'ONU qui a mis ça en place, Organisation des Nations Unies, pour ceux qui le sauraient pas, pour contrôler l'évolution du climat. C'est horrible, c'est la maman.
C'est vrai, madame.
Okay. C'est vrai? C'est tout? Ok. Non, sauf si vous avez autre chose à dire.
Vous savez quoi?
Bah, comment ils travaillent?
Ah, je ne sais pas.
D'accord.
Ils sont en Suisse, je crois.
Non. Merci, ma voix revient. Le président actuel du GIEC est un Indien, Patchouri. Et en fait, donc, le GIEC réunit plusieurs milliers, je crois 3000 scientifiques à travers le monde, qui travaillent chacun dans leur laboratoire et qui sont chargés de trouver un consensus, puisque vous avez sûrement entendu parler de toutes ces controverses où chaque jour on a un savant ou un non-savant qui va dire finalement le climat ne change pas, finalement c'est les rayons du soleil, c'est la rotation de la Terre qui perturbe le climat, ce n'est pas l'homme. Et le GIEC est là pour dire, eh bien, écoutez, nous, on va tous se mettre d'accord et on va établir un livre, c'est les résultats en fait de leurs travaux, qui publient tous les 4 ans, et où ils expliquent leurs observations et leurs prévisions. Et donc, normalement, eh bien, on doit leur faire confiance, puisque si ce n'est pas à eux qu'on fait confiance pour nous dire comment va le climat, je ne vois pas à qui on peut faire confiance. Donc, eux, leurs résultats, ils disent effectivement le changement climatique est dû à l'homme. Et voilà ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas que l'homme, il y a d'autres facteurs, mais l'homme est un grand facteur de modification. Et puis, donc, j'aimais bien ce terme, je voulais vous l'exposer, l'anthropocène, c'est... Donc la période où maintenant c'est l'homme qui est un facteur de modification du climat, au même titre que les volcans ou que d'autres facteurs comme les rayonnements du soleil ou la rotation de la Terre. Et c'est Paul Crutzen, donc un climatologue prix Nobel de chimie, qui a lancé ce terme. Donc avant de voir les gaz qui sont responsables, donc vous en connaissez un puisque je l'ai évoqué plusieurs fois, le CO2, gaz carbonique, dioxyde de carbone plus précisément, et bien donc il intervient à travers le cycle du carbone. Donc le cycle du carbone fait circuler le carbone sous une forme organique, minérale ou atmosphérique, mais c'est toujours la molécule de carbone qui circule. Donc nous, effectivement, on l'absorbe, on le rejette, on est constitué de carbone, les végétaux aussi. Et donc vous avez ce cycle qui est normal, où l'homme n'intervient pas, et qui permet d'avoir une régulation de la température, puisque la concentration de gaz de CO2 dans l'atmosphère, avec ce cycle, est régulière. Et puis, l'homme intervient. Donc là, vous voyez à peu près les proportions. Donc GT, ce sont des gigatonnes de CO2 qui sont émises chaque année. Donc il y a beaucoup plus que ça. Vous voyez, il y a 330 par exemple gigatonnes qui sont échangées chaque année dans les océans, c'est énorme. Et l'homme n'intervient que pour à peu près 30 gigatonnes. Mais c'est quand même suffisamment important pour modifier complètement le cycle du carbone et la concentration de gaz dans l'atmosphère. Et donc chaque année, la Terre recycle une partie du carbone. Heureusement, elle sédimente. Elle sédimente grâce aux animaux qui vivent dans les océans et donc qui vont constituer du calcaire. Ça va sédimenter le carbone dans les océans. Et puis une autre partie est stockée dans la végétation. Mais ça ne suffit pas. Il y a quand même une grande partie qui reste en excès dans l'atmosphère. Donc on considère qu'on a à peu près 15 gigatonnes en trop chaque année dans l'atmosphère. Si vous avez des questions sur ce schéma, vous pouvez les poser, parce qu'il est assez compliqué, mais on va y revenir. Hop là. Je vais rester dessus pour pas que vous voyez la diapo d'après, puisque vous allez me dire quels sont les autres gaz à effet de serre que vous connaissez. Donc on a parlé du CO2. Il est émis par quoi, le CO2? Mais nous, on fait partie du cycle du carbone, finalement. Qu'est-ce qui émet en excès du carbone? Ouais. Voilà, essentiellement la combustion des énergies fossiles. Donc le charbon, le pétrole et le gaz qui sont extraits de l'océan ou de la terre et qui faisaient partie du cycle du carbone de manière statique. En fait, ils restaient enfouis et ils n'avaient pas de raison de rentrer dans le cycle de l'atmosphère. Et l'homme les a extraits des profondeurs pour les brûler. Et en les brûlant, il a fait s'évaporer, il a fait se diluer dans l'atmosphère du carbone. Donc il y a ça. Donc, autre gaz. La vapeur d'eau. Mais pour l'instant, la vapeur d'eau, on considère qu'elle fait partie d'un cycle naturel. Donc, elle ne nous pose pas trop de problèmes. Oui ? Le méthane, alors il est émis par quoi ? Par les ruminants. Et les vaches ne sont pas les seuls responsables. Vous avez les chameaux, par exemple, les moutons. Tous ceux qui vont en fait faire fermenter la matière organique dans leur gorge. Et c'est pour ça qu'ils passent leur temps à faire comme ça, des ruminants. Et du coup, le problème, ce n'est pas tant leur paix, c'est leur roux, le fait qu'ils ruminent. Et, enfin, le fait qu'ils fassent transformer la matière organique en méthane dans leur gorge. Donc il y a les rivières aussi qui émettent du méthane. Quoi d'autre ? Les glaces qui fondent ? Ouais. Le pergisol, par exemple, c'est ça ? Ou le permafrost. Donc, effectivement, il y a des poches de méthane qui sont conservées sous le sol gelé, en Russie, par exemple. Et en fondant, ces poches de méthane retournent dans l'atmosphère. Et ça, c'est un vrai problème, puisque le changement climatique va faire monter la température, faire fondre ces glaces et libérer encore plus du méthane. Quel autre gaz vous connaissez ? À effet de serre. Quel autre gaz connaissez-vous que le méthane et le CO2? Le protoxyde d'azote. Mais oui. Alors, il est émis par qui, par quoi? Je crois pas. Bon, il est émis notamment par l'agriculture qui utilise des engrais azotés pour enrichir les sols. Parce qu'avec une réaction dans l'air, ce protoxyde d'azote qui est minéral, se transforme et devient un gaz. Donc l'azote devient protoxyde d'azote et va monter dans les couches de l'atmosphère. Quel autre gaz ? Les CFC dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple. CFC, HCFC, donc qui sont des gaz fluorés, qui sont utilisés notamment dans la climatisation, tout ce qui va nous servir à nous refroidir. Et le problème de ces gaz, c'est qu'ils ont un pouvoir de réchauffement extrêmement puissant. Ça veut dire quoi, pouvoir de réchauffement ? Ça veut dire qu'ils ont une capacité, quand ils sont dans l'atmosphère, à empêcher le rayonnement infrarouge de partir, bien plus importante que le CO2 ou le méthane. Et donc ces gaz-là, ils ont par exemple en moyenne un pouvoir de réchauffement 20 000 fois supérieur au CO2. Donc si vous émettez 1 gramme de CFC, c'est comme si vous aviez émis 20 000 grammes de CO2. Donc c'est pas du tout négligeable. Et le problème, c'est comme il fait de plus en plus chaud, les gens s'équipent de plus en plus de climatisation et utilise de plus en plus ces gaz-là. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Il nous reste l'ozone troposphérique. Et oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, l'ozone est un gaz à effet de serre. Mais en fait, comme il est lié au pot d'échappement des voitures, il est aussi lié au combustible fossile. C'est la même cause. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Vous voyez que le CO2, c'est lui dont on parle le plus parce que c'est lui qui représente la majeure partie du problème. Mais comme je vous le disais, les autres deviennent de plus en plus importants parce qu'on les utilise beaucoup. Et qu'ils ont un pouvoir de réchauffement aussi très important. Donc ne l'oubliez pas, il n'y a pas que le CO2 qui est responsable. Alors, d'où viennent ces émissions? Donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous voyez que finalement, vous êtes au centre de tout. Vous êtes responsable. Non, je rigole. Nous sommes tous responsables, en fait. Et quelles que soient nos activités, on peut être sûr que, quoi qu'on fasse, on va émettre des gaz à effet de serre parce qu'on vit dans un monde industrialisé où on utilise beaucoup, beaucoup de combustibles fossiles, notamment. Alors donc, par exemple, eh ben, vous voyez que le secteur des déchets, que ce soit les eaux usées, les décharges, produit des gaz à effet de serre. Pourquoi? Ben, parce qu'on va transporter les déchets, donc on va utiliser du combustible fossile. Parce que dans les décharges, il y a une fermentation qui va faire évaporer du méthane, par exemple. Les transports, qui est donc bien connu, grand responsable. Tout ce qui va être production d'énergie, transformation d'électricité. Et puis, tout en bas, le secteur agricole, forestier, donc l'élevage, les engrais, les rizières, et puis aussi la déforestation. Un gros pôle que la déforestation, puisque on empêche le stockage de carbone par les végétaux, et on émet, avec les fumées, du CO2. Et puis donc, tout l'industrie et la climatisation. Avec ça, si vous voulez répartir par secteur, eh ben, on a une bonne part de l'énergie, une bonne part d'industrie, une bonne part d'agriculture, déforestation, forêt, bâtiment. Il n'y a pas un grand responsable. Finalement, toutes les activités sont importantes, même si l'énergie et les transports sont finalement ce qui nous concerne le plus. Je vais pas trop vite, vous voulez que je revienne? Je vous laisse le temps de noter, si vous voulez. Je regarde l'heure qu'il est. 3 fois en arrière? Bon, je reste un peu là et après je reviens en arrière un peu. Mais a priori, ce diaporama, il sera en ligne, je pense, sur le site de l'UTLS, je ne sais pas. Donc je peux le mettre à disposition, si ça vous évite de noter tout. Que je mette le diaporama à disposition du lycée. Comme ça, vous êtes plutôt attentif et vous écrivez que les choses très importantes. Bon, je reviens un petit peu en arrière. C'est ça? Notez plutôt, il n'y a pas que le CO2, il y en a d'autres, mais le CO2 est la plus grosse part. Et attention au pouvoir de réchauffement des CFC. Allez, je passe un peu parce qu'on a... Mais on a des choses à voir. Les chiffres, vous les aurez avec le diaporama que je mets à disposition. Donc, le changement climatique, il y a des causes physiques, mais nos causes, elles sont liées à notre dépendance énorme aux combustibles fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz. Chaque objet que vous voyez devant vous est constitué de pétrole, a priori. Le plastique, voilà, ça va, ils avaient des chaises en bois et en métal, mais bon, le plastique est plutôt partout, et la nécessité du pétrole aussi. Et finalement, un des gros problèmes, c'est que personne ne prend vraiment en compte ce problème, parce que on se sent un peu éloigné de la responsabilité collective. L'individu, ou la notion d'individu est devenue tellement primordial dans nos sociétés, qu'on n'a plus de notion du bien collectif. Et c'est pour ça que personne n'agit vraiment en disant « Pourquoi moi ?» C'est plutôt aux autres d'agir. Alors, quelles sont les conséquences maintenant? On a vu les causes, on a vu les faits, et on va voir un peu quelles sont les conséquences. Donc, c'est de nouveau le GIEC qui nous explique ce qui va nous arriver. Alors le GIEC ponche des scénarios en disant, bon, il y a plusieurs options possibles dans les années à venir. Soit la société prend en compte le problème et réduit ses émissions, soit au contraire, on continue à faire comme avant. Et entre ces deux options-là, eh ben, ils étudient des fourchettes. Ça peut être des options où on agit un petit peu, mais pas trop. On va s'orienter vers des technologies plus propres ou vers la sobriété. Et ils ont quand même deux extrêmes, la limite haute et la limite basse. Et donc, c'est ces chiffres-là que je vais vous donner, la limite haute et la limite basse de leurs prédictions. Donc, ils disent que d'ici la fin du siècle, on devrait avoir une augmentation de température de 1,8 à 6 degrés par rapport aux années 90. Donc, si vous voulez, par rapport à 1850, il faut rajouter 0,8 degrés. Pourquoi 1850 ? Parce que, en fait, c'est aussi la révolution industrielle, celle qui nous a fait basculer dans un monde de pétrole. Et donc je vous rappelle que même 2 degrés, c'est énorme. Ça change complètement la face des écosystèmes. On va le voir après. Et puis l'augmentation du niveau des océans, donc entre 18 et 100 cm, donc entre 20 cm et 1 mètre, quoi, à peu près. Et pareil, il faut rajouter 20 cm par rapport à 1850. Et il faut savoir aussi, c'est ce que j'ai mis en bas, qu'une fois que les températures mondiales se seront stabilisées, si on arrête d'émettre, eh bien, le niveau de la mer continuera à s'élever pendant très longtemps, jusqu'à plusieurs mètres. Ça, c'est les prévisions du GIEC. Ne notez pas tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer aussi localement ? En fait, on parle d'un réchauffement climatique mondial, mais il faut savoir que localement, il peut y avoir des refroidissements. Parce que, comme on l'a vu, le système climatique est tellement complexe qu'il y a des endroits, ça peut se refroidir, et des endroits, ça peut être beaucoup plus élevé que les températures que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est une petite carte pour vous parler un petit peu des différentes régions, comment elles vont être exposées au risque. En Europe, on ne devrait pas être les plus exposés. Donc, par exemple, si je vous donne deux cas à l'Europe et puis mettons l'Amérique latine, on voit qu'en Europe, eh bien, on devrait avoir un peu plus de sécheresse ou de canicule, un peu plus de précipitations aussi. Mais ce qui va nous poser problème, ça va être aussi la perte de biodiversité. Donc on se dit finalement, bon, ça, c'est gérable. Par contre, il y a des pays comme l'Amérique latine, où là, il va y avoir un stress hydrique tellement important que les gens n'auront plus accès à l'eau. Il va y avoir le développement de maladies. Il va y avoir des écosystèmes entiers comme les mangroves qui vont disparaître, des cyclones tropicaux, de la désertification. Et un des plus gros problèmes, ça va être la salinisation des terres arables, cultivables. Parce qu'avec la montée des eaux, eh ben, l'eau de mer qui est salée va pénétrer dans les nappes des continents et va saliniser les terres, ce qui fait qu'une grosse partie des terres ne va plus être cultivable. Je donne par exemple un exemple en Ouganda. Donc, il va y avoir la modification de la température qui va jouer, mais également la montée des eaux et la salinisation de toutes ces terres-là. Ce qui fait que eux qui cultivaient le café, eh ben, risquent de ne plus pouvoir du tout le cultiver. Et ça, ça peut se produire également en France. On dit que le Bordelais ne pourra plus faire de Bordeaux et la Champagne ne pourra plus faire de Champagne. Tout ça va se décaler vers le nord. Mais on ne pourra sûrement plus cultiver du blé tel qu'on le cultivait de cette manière-là. Et il faut se rendre compte que, en fait, tout est imbriqué. Il n'y a pas que des questions de modification de température ou de manque d'eau. Tout ça est lié. Par exemple, si vous manquez d'eau, vous avez une moins bonne qualité des sols et il y a beaucoup de régions du monde qui ne pourront plus cultiver, qui vont souffrir encore plus de famine. Donc insuffisance alimentaire, donc problème de santé publique, perte de biodiversité, désertification, déforestation, tout ça est lié. Donc ce n'est pas un très beau tableau que je vous brosse, mais ça va être la réalité. Et le principal problème, ça va être les tensions et les conflits humains qui vont en résulter. Parce que quand on voit ce qui se passe actuellement dans des régions où ils ont des problèmes d'eau, où ils ont des problèmes de nourriture, et toutes les guerres civiles qui s'ensuivent, et tous les déplacements de population, finalement, ça va forcément se répercuter sur toute la planète, ces problèmes-là. Et ça va être ce que nous, humains, aurons à gérer de plus préoccupant, ça va être les conflits entre humains. Donc, si on ne veut pas que tout ça se produise, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si je viens vous parler, c'est pour vous dire qu'on peut faire quelque chose. Parce que tout n'est pas catastrophique, heureusement. Il nous reste encore du temps, pas beaucoup. Et je vais vous expliquer quels objectifs on doit se fixer. Donc, on l'a vu tout à l'heure, la Terre recycle une partie du gaz carbonique en l'enfouissant dans les océans sous forme de sédimentation ou dans la végétation. Alors, en fait, l'objectif qu'on devrait se fixer, c'est ne pas émettre plus que ce que cette Terre peut recycler chaque année. Et donc, on a une permission. On ne doit pas ne plus émettre du tout, ce qui nous paraîtrait impossible du jour au lendemain. On a 11 gigatonnes de CO2 qui sont permises par an, alors qu'aujourd'hui, on en émet en moyenne 26 gigatonnes. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait diviser au moins par deux nos émissions. Un autre objectif, ça peut être de parler en termes de température. Donc les scientifiques, notamment les scientifiques qui étudient les écosystèmes, ont montré qu'au-delà de 2 degrés, on basculait complètement dans une autre ère, dans d'autres écosystèmes, et qu'il fallait vraiment se fixer cette limite de 2 degrés à ne pas dépasser. Par exemple, sur ce schéma, on voit que si on dépasse 2 degrés, on franchit un cap en termes d'inondations, en termes de pénurie d'eau, en termes de famine, mais il y a également un effet sur l'écosystème. Les espèces peuvent s'adapter en dessous de 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, c'est très difficile pour elles de s'adapter. Et en fait, vous pouvez me dire, mais depuis des milliers d'années, les espèces se sont adaptées aux évolutions du climat. Mais c'était des évolutions très lentes. Aujourd'hui, en 100 ans, elles doivent s'adapter à 2 degrés. C'est quelque chose d'énorme pour elles. Avant, elle mettait des milliers d'années à s'adapter à 0 degré, 0,1 degré, 0,2 degré. Donc, quels objectifs? Ce qui est dit partout, c'est qu'on ne doit pas dépasser 2 degrés. Sachant que la limite basse, c'est 1,8 degré, celle du GIEC. Donc, ça veut dire qu'on doit être dans la limite basse du GIEC. Ou alors, on peut dire, ce qui revient à la même chose, ne pas dépasser 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est des chiffres en concentration dans l'atmosphère. On peut dire réduire nos émissions par 2. Et on se fixe un objectif qui est 2050. Oui. Partie par million. Million. C'est la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc 50%, c'est en moyenne sur Terre. Ça veut dire que nous, les pays développés, on doit faire beaucoup plus. Et j'y reviendrai. C'est la partie plus politique. Mais c'est pour ça que vous entendez souvent, il faut diviser par 4 nos émissions d'ici 2050. C'est le message de tous les hommes politiques ou de tous les scientifiques, de toutes les ONG. Diviser par 4 d'ici 2050. Et en fait, on n'a pas beaucoup de laps de temps devant nous. Chaque année de retard diminue nos chances de ne pas dépasser 2 degrés. Pardon ? Mais notez pas tout. J'avance. Donc, ne pas dépasser 2 degrés. Alors, je reviens, vous allez être contents, sur une diapositive qui était celle-là. On a dit 11 gigatonnes par an pour toute l'humanité. Si on divise par le nombre d'habitants sur Terre, on est combien ? 6,5 milliards, donc on fait à peu près 11 divisé par 6,5. Ça fait 1,8 par personne et par an. 1,8 tonnes. Si chacun n'émet que 1,8 tonnes, on peut remplir l'objectif. Ou alors si chacun divise par 4 ses émissions. Mais en fait, vous allez voir, on n'émet pas tous la même chose chacun. Alors, 1,8 tonnes, ça représente quoi? C'est 1800 kilos. Ça ne nous avance pas plus. Alors voilà, la limite préconisée est en bleu. 1800 kg de CO2 par personne et par an. Sachant que vous faites un aller-retour en avion Paris-Singapour, vous avez déjà 5000 kg qui vous sont attribués. 5000 kg par passager, puisque le trajet en lui-même émet, s'il y a 300 passagers, émet 3 fois 5, voilà. 150 000, c'est ça? Donc, c'est par personne. Si vous vous chauffez dans une maison mal isolée avec du fuel, déjà, vous avez grillé votre quota. Par contre, si vous vous chauffez un peu mieux, vous avez de la marge. Et si vous vous déplacez en train, ou si vous faites du covoiturage, tout ça, toutes ces options-là qui sont plutôt à gauche, ça vous réduit vos options. Ça vous permet d'atteindre ce quota. Mais rien que de manger sur une année, vous émettez 800 kg de CO2. Et vous voyez que si vous allez un trajet en voiture, si vous le faites à 4, vous pouvez remercier les gens qui vous accompagnent parce que grâce à eux, vous n'avez que 50 kg de CO2 au lieu d'en émettre 200. Donc prenez les gens en stop, montez à plusieurs dans une voiture, habitez à plusieurs dans une maison. Regarde l'heure qu'il est. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux, on n'émet pas tous la même quantité de CO2 en moyenne, et vous voyez que un Américain émet à peu près deux fois plus qu'un Français et à peu près 20 fois plus qu'un Camerounais. Mais il y en a des pires que les Américains au niveau émissions, c'est les Émirats Arabes Unis par exemple. Le Qatar, ouais. Alors, au niveau politique, est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour diviser par 4 les émissions mondiales d'ici 2050? Je fais un bref retour en arrière pour vous expliquer la prise de conscience mondiale. Donc, en 88, on a vu création du GIEC. Parce qu'en fait, on attendait les résultats du GIEC pour savoir comment se positionner au niveau politique. En 1995, au niveau du deuxième rapport du GIEC, il y a eu une vraie prise de conscience. Parce qu'ils ont commencé à dire, oui, c'est vraiment très probable, parce qu'à chaque fois, ils parlent en probabilité, il est très probable que l'homme soit responsable du changement climatique. Et la Convention climat a été adoptée en 1992. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, la Convention? Elle disait ça. Elle disait, on reconnaît qu'il faut stabiliser les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse. Aujourd'hui, ça a été défini, le dangereux, ça veut dire au-delà de 2 degrés. Et ils se sont dit, on est tous responsables, mais certains plus que d'autres. Et cette convention n'a pas vraiment engagé les pays. Tous les pays l'ont signée, ils ont dit, ah oui, ok, on est d'accord, parce que ça ne les engageait pas vraiment. Ils reconnaissaient qu'il fallait faire quelque chose. Et puis, un peu plus tard, donc, on a abouti au protocole de Kyoto, qui, lui, était bien plus engageant. Et en 2007, le dernier rapport du GIEC, qui dit que cette fois, l'homme est vraiment très, très, très probablement responsable, et qui nous montre les scénarios que je vous ai dit, et qui revoit chaque année, en fait, à la hausse ses prévisions. Alors, pour parler un peu du protocole de Kyoto, les pays se sont réunis et puis ils se sont dit, comment on va faire pour se fixer des objectifs? D'accord, il faut réduire nos émissions, mettons par 4 d'ici 2050, mais comment on fait? Qui va réduire de combien? Comment vous auriez fait, vous? D'accord. Oui, mais nous, les Américains, d'accord, mais nous. Mais comment vous auriez réparti les quotas? Vous auriez dit c'est aux Américains de réduire et pas aux Européens, et les Africains et les Asiatiques. Qui, levez la main, qui aurait dit c'est aux pays industrialisés de réduire leurs émissions, mais pas aux pays développés? Pas aux pays en développement, pardon. Qui aurait dit, je répète, c'est les pays industrialisés qui doivent réduire leurs émissions, par contre les pays en développement, on les laisse faire? Attention, ça ne veut rien dire, attention. Il faut se fixer des objectifs. Qui aurait dit, eh ben, tout le monde sur Terre, 1,8 tonnes par personne. 1,8 tonnes par personne et par an. Et maintenant, qui aurait dit, eh ben, on va prendre une date, par exemple l'année 1990, et on va regarder qui a émis quoi, quel pays a émis quelle quantité cette année-là. Et en fait, ils devront réduire en fonction de ce qu'ils ont émis. S'ils ont beaucoup émis, eh ben, ils n'auront pas beaucoup à réduire, parce que c'est dur pour eux de passer de beaucoup à pas beaucoup. S'ils n'ont pas beaucoup, eh ben, ils auront un petit peu quand même. Qui aurait dit ça? Que ça dépendait en fait de l'année 90, par exemple, ou d'une autre année. Bon, au moins, voilà, vous êtes représentatif des pays qui se réunissent aujourd'hui à Cancun. C'est que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et surtout, ils ne veulent pas être ceux qui en font le plus. Ils disent, ben, y a pas de raison que ça soit nous et pas les autres. Donc si on regarde ce tableau, alors il y avait plusieurs possibles pour se répartir les options. Alors par exemple, en disant, ben, effectivement, dans une année donnée, on va favoriser les pays qui ont beaucoup émis dans le passé, parce que pour eux c'est dur de changer du jour au lendemain. Et ça, ça favorise beaucoup les États-Unis ou l'Europe. On va dire, ben non, c'est plutôt les pays qui ont beaucoup de monde, qui ont une forte démographie. Ceux-là, eh ben, finalement, ils doivent moins réduire que les autres. On peut dire, ah ben non, c'est les pays pauvres qui doivent moins réduire, parce qu'ils n'ont pas la technologie, pas les finances pour le faire. Et ça, ça favorise beaucoup la Chine ou l'Inde, par exemple. Et, à votre avis, qu'est-ce qui a été retenu, finalement? Comment le protocole de Kyoto a réparti? Vous ne savez pas? Eh bien, c'est la première option qui favorise plutôt la communauté européenne et les États-Unis, par exemple. On a choisi une année donnée et on a fixé des objectifs par rapport aux émissions dans cette année-là. Donc, le protocole de Kyoto, si on calcule ce que chacun doit réduire en pourcentage, on arrive à une moyenne de 5% d'ici 2010, c'est-à-dire d'ici l'année qui vient de se passer en moyenne. Parce qu'en fait, on calcule sur plusieurs années pour faire les moyennes. 5% par rapport à l'objectif de 80%, on en est très loin. Mais c'était déjà un début. Et donc, qui a ratifié ce protocole? Eh bien, beaucoup de pays, mais pas les États-Unis. Parce que les États-Unis, ça les engageait quand même à réduire considérablement leurs émissions. Qui n'atteignent pas leurs objectifs? Oui. Si. Mais le protocole de Kyoto, eh ben, il fait grise mine en ce moment. Et donc, les sanctions, on va avoir du mal à les appliquer. Parce qu'en fait, ce qui est injuste, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont signé, donc il s'est quand même mis en place. Il a été validé, en quelque sorte. Mais il y a une grande partie des pays, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis, qui ne l'ont pas signé. Et donc, ça ne veut plus rien dire, parce que ça représente quand même une grande proportion d'émissions. Et les pays en développement, en fait, n'étaient pas comptabilisés dans le protocole de Kyoto. Ça devait faire partie des engagements après 2010. Donc, nous, en France, notre objectif, c'était de faire 0%. Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Oui. Pour une fois, on n'est pas un si mauvais élève. On a atteint nos objectifs. Par contre, beaucoup d'autres pays ne les ont pas atteints. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Vous savez que l'année dernière, Copenhague, c'était la catastrophe. En fait, Copenhague, pour pas que vous lisiez en même temps que je parle, je remets ça. Copenhague, on devait décider de l'implication des pays en développement. Parce que finalement, la Chine et l'Inde représentent une grande partie des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Et si les pays en développement ne font pas partie des négociations ou des objectifs de réduction, on ne résoudra pas le problème. Sauf que eux, ils disent, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on réduise parce que vous, pays occidentaux, vous avez pu émettre depuis la révolution industrielle et on ne vous a rien dit. Nous, alors qu'aujourd'hui on a besoin du charbon et du pétrole Vous voudriez qu'on s'en passe. Et effectivement, il y a une forme d'injustice. Alors, aujourd'hui, à Cancun, de même qu'à Copenhague, on a quelques pays qui veulent monopoliser les négociations et sortir du cadre de l'ONU et qui veulent plomber le protocole de Kyoto pour qu'il n'existe plus. Ils veulent mettre en place quelque chose d'autre qui, finalement, ne ferait réduire que de entre 7 et 13% des émissions pour 2020. Alors que pour 2020, il nous faudrait au moins atteindre 40 ou 50% si on veut atteindre 80% en 2050. Donc, ce n'est pas du tout suffisant. Et au final, c'est les USA et la Chine qui représentent quand même, rien que tous les deux, 40% des émissions, qui sont en train de monopoliser les négociations, mais pas avec beaucoup de volonté. Paradoxalement, c'est la Chine qui a plus envie d'agir que les États-Unis. Peut-être parce qu'elle est directement impliquée dans les inondations qui ont eu lieu récemment et qu'elle voit directement ce que le changement climatique va provoquer dans son pays. Et c'est les pays en développement qui subissent de plein fouet le changement climatique qui sont aujourd'hui les plus actifs dans les négociations. Mais leur voix ne porte pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? On a vu que la politique, ce n'était pas tout à fait ça. Au niveau technologique, donc là, je ne vais pas rester des heures, je suis désolée sur ce schéma, mais vous l'aurez à disposition si vous voulez le voir. J'ai essayé de classer un peu les différentes options qu'on avait devant nous. Donc, on parle de séquestration du carbone, par exemple, de la fusion nucléaire, du photovoltaïque, de la cogénération, ou alors d'outils économiques, d'outils d'urbanisme ou de mobilité. Et tous ces outils-là, en fait, j'essaie de les classer en fonction de l'impact qu'ils auraient sur le climat, mais aussi de la manière dont on peut facilement les mettre en place. Et on se rend compte que ce qui marcherait le mieux, le plus facilement, ça serait des choses qui sont liées à notre mode de fonctionnement quotidien. Les déplacements, l'urbanisme, la consommation. Et attendre une révolution de, par exemple, la fusion nucléaire ou des nouvelles centrales nucléaires, ça c'est pas du tout l'avenir parce que c'est trop long à mettre en place, parce que ça a d'autres problèmes. Et donc, c'est pour ça que je vais vous développer ici dans le temps qui nous reste. Je vais m'accorder encore 5-10 minutes, après on posera des questions. Pour vous montrer ce que vous pouvez faire, ce que la collectivité peut faire au niveau local. Puisque selon... Donc ça renvoie à nos besoins. Donc ça veut dire qu'on doit évaluer nos vrais besoins et ne pas gaspiller au-delà des besoins. La deuxième étape, à votre avis, c'est laquelle ? Je pense que c'est plutôt la troisième, mais on verra. Ouais. Donc, deuxième étape, je vais vous la dire. L'efficacité. Qu'est-ce que c'est l'efficacité? Par exemple, un appareil de chauffage. Vous avez peut-être des vieux poêles à bois ou des vieilles chaudières à fioul qui consomment beaucoup pour pas grand-chose. Finalement, vous avez froid chez vous, mais vous vous rendez compte que votre facture est énorme. Enfin, peut-être pas vous parce que c'est pas vous qui payez, mais vous avez peut-être froid chez vous quand même. Non, vous êtes dans le sud, vous. Bon. Donc, un appareil efficace, c'est un appareil qui va consommer peu pour le même besoin. Donc, vous allez remplacer une chaudière qui marche pas bien et vous allez mettre une chaudière qui marche bien, qui va consommer peu pour bien vous chauffer. Mais ça peut être une voiture aussi. Une voiture qui consomme peu d'essence, mais qui va vous emmener au même endroit qu'une voiture qui en consommerait plus. OK ? Et la dernière étape, c'est le renouvelable. Donc pour les énergies, ça va être les énergies renouvelables. Mais on va voir que ça peut se décliner ailleurs que dans l'énergie. Donc si on décline ces trois étapes-là, qu'est-ce que ça nous donne? Par exemple, pour le chauffage, l'efficacité d'une maison, ça serait une maison qui serait bien conçue. Donc on parle de maisons bioclimatiques. C'est des maisons qui vont jouer avec le climat. Qui vont par exemple avoir des grandes ouvertures au sud. Qui vont avoir des grandes ouvertures au sud pour avoir un maximum d'apport solaire pour l'hiver. Pour se chauffer sans avoir besoin de chauffage en plus, quoi. On se chauffe seulement avec l'apport du soleil à travers les vitres. Et puis on va mettre des arbres par exemple pour se protéger du mistral ou du vent froid qui vient du nord. Et on met de la végétation pour que l'été, les feuilles prennent la lumière du soleil et nous apportent de la fraîcheur. Et avec ça, on n'a pas besoin de consommer de pétrole, de gaz ou de charbon, ou de climatisation. Pour le renouvelable, eh ben, ça serait choisir une forme d'énergie renouvelable pour se chauffer. Donc effectivement, se chauffer au bois, se chauffer au solaire. Si on n'a pas pu construire une maison bioclimatique, c'est oublier tout ce qui est chauffage électrique, chauffage au gaz, chauffage au fioul. Et pour produire son électricité, eh ben, on va éviter le charbon, le pétrole, le gaz, encore tous ces combustibles fossiles qui émettent beaucoup trop de CO2. Et on va se tourner vers le bois, l'éolien, l'hydraulique et le solaire. Un peu moins le nucléaire à cause des autres risques qu'il engendre. Le biogaz aussi, que vous connaissez peut-être, qui va se développer dans l'avenir parce que c'est une source de gaz, mais faite à partir de déchets végétaux, par exemple, de l'agriculture ou de vos déchets de cuisine. Et donc, vous, par exemple, vous pouvez être concerné dans vos choix de consommation. Donc, pour choisir vos aliments, vous pouvez aussi prendre en compte l'aspect émission de gaz à effet de serre. Comme je vous l'ai dit, si vous ne faites pas attention, en moyenne dans l'année, vous allez avoir 800 kg de CO2 attribués à votre nourriture. Vous remarquez que c'est plutôt la viande qui consomme, qui émet beaucoup plus de CO2, à l'inverse des céréales, par exemple, ou des œufs. Alors, pourquoi ? Je vais vous montrer. Non, c'est là. Voilà. Parce que donc pour produire des aliments, il faut de l'énergie. Si vous voulez cultiver un champ de maïs, par exemple, vous devez irriguer. Vous avez besoin de fioul pour irriguer. Vous avez besoin d'engrais azotés, on en a parlé. Pour fabriquer des pesticides, vous avez besoin beaucoup de pétrole. Pour labourer les surfaces, vous avez besoin de tracteurs et donc de fioul. Pour sécher le maïs, pour le commercialiser. Et au final, pour faire du maïs, vous avez besoin de 500 kg de pétrole pour faire 8 tonnes de maïs. C'est pour ça que les aliments émettent des gaz à effet de serre. C'est à cause de toute cette chaîne-là. Mais pour la viande, c'est encore pire. Je reviens derrière. Si vous mangez de la viande, vous émettez beaucoup plus de gaz à effet de serre. Je ne dis pas naturellement, mais la chaîne qui est tout derrière la fabrication de la viande est responsable de beaucoup plus de gaz à effet de serre que les céréales ou les légumineuses. Parce que, alors ouais, là on est sur la surface, parce que, bon, je ne vais pas me développer ça parce que c'est un peu long, c'est intéressant aussi. J'y reviendrai si vous avez des questions dessus à la fin plutôt. Mais donc on était là, et donc je vous expliquais que la viande émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que les céréales, donc si vous voulez faites votre part, vous pouvez devenir végétarien. Vous savez qu'on peut remplacer un régime carné. En mangeant des légumineuses et des céréales. Vous savez ce que c'est des légumineuses ? Des légumineuses, savez-vous ce que c'est ? Des légumineuses. Si vous voulez synthétiser des protéines les mêmes que celles de la viande et ne pas souffrir de carence, vous pouvez manger dans un même repas légumineuses et céréales. Les légumineuses, c'est tout ce qui comporte une fève en fait. Les haricots verts, les petits pois, les pois chiches, les fèves. Non, pas les épinards. Tout ce qui a des gousses, vous savez, des gousses avec des fèves dans les gousses. Voilà. Ça, c'est des légumineuses et mélangées avec des céréales, ça vous apporte tout ce qu'il faut. Je vous fais de la diététique. Le président du GIEC a dit que si on voulait vraiment faire quelque chose pour le climat, la première chose à faire, c'était de devenir végétarien. Alors, au niveau de vos aliments, on vous l'a peut-être déjà dit, mais mangez local. Avec ces chiffres-là, vous voyez que si vous faites venir vos kiwis de Nouvelle-Zélande ou vos pamplemousses d'Amérique du Sud, vous allez être bien plus émetteur de gaz à effet de serre. Vous savez qu'il y a 3 jours, il y a 2 camions qui sont percutés sur l'autoroute ? Voilà. Eh bien, il y en a qui transportaient des tomates fabriquées en France et qui allaient les vendre en Espagne, et l'autre qui transportait des tomates fabriquées en Espagne et qui allaient les vendre en France. Non, ça c'est une anecdote pour vous expliquer qu'on est dans un système complètement bancal où on ne consomme plus ce qui est fabriqué localement. Donc, regardez l'origine, la provenance de ce que vous mangez et choisissez du local. Donc ça, on l'a vu. Alors, si vous mangez bio aussi, vous allez utiliser moins d'engrais azotés et vous allez utiliser des techniques. Qui consomme moins de pétrole. Donc si vous mangez bio, vous serez aussi moins nocif pour le climat. Voilà, ça on l'a vu. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une carte du monde qui explique comment est fabriqué un jean. Si vous achetez votre jean au magasin d'en face, vous vous dites c'est bon, j'achète local. Mais en fait, le coton fabriqué pour la toile est fabriqué au Bénin, par exemple. Pour les boutons, c'est fabriqué en Australie. Pour les poches, c'est au Pakistan. Pour le délavage, c'est en Turquie. Pour la fermeture éclair, c'est le Japon. Bref, votre jean a fait le tour du monde. Alors là, c'est moins facile de choisir des vêtements fabriqués localement. Mais cherchez. Au niveau des transports aussi, une voiture émet beaucoup plus qu'un tramway, qu'un bus, qu'un métro. Parce qu'il n'y a qu'un seul passager, voire deux passagers dans la même voiture. Et l'avion émet énormément parce qu'il a besoin de beaucoup de puissance pour décoller, surtout. Donc choisissez des modes de transport plus doux, comme celui-là. Alors, on rêve tous hein, que le pétrole, un jour, sera beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Au prix du Chanel numéro 5, peut-être. Mais c'est vrai qu'un monde avec un pétrole cher, ça risque d'être la catastrophe économique. Mais en tout cas, pour la planète, ça serait pas mal. Vous pouvez aussi conduire souplement, vous qui allez bientôt apprendre à conduire. Trois règles. Être à bas régime. Anticiper les freinages, conduire souplement et éviter les changements de vitesse inutiles. C'est des petites choses simples, mais chaque goutte est importante. Quand vous aurez l'âge de choisir une voiture, vous pourrez consulter le palmarès de l'ADEME qui classe les voitures en fonction des moteurs les plus propres. Vous pouvez influencer vos parents aussi dans le choix d'une voiture. Évitez d'avoir des grosses bagnoles avec des gros cylindres quand vous avez juste besoin d'une petite voiture. Je sais que tout ça vous fait beaucoup d'effet, mais j'ai bientôt fini. Peut-être que dans quelques années, on aura le développement d'huile végétale en remplacement de l'essence, mais ça implique d'autres problèmes liés à la culture intensive de tous les végétaux qu'on pourrait mettre dans nos moteurs. Donc la première chose, c'est d'être sobre, de consommer moins, de se déplacer quand c'est nécessaire, avec des moteurs efficaces. Donc ça, c'est un petit schéma pour récapituler, pour vous dire que ça, c'est une famille moyenne de 3 personnes qui émet en moyenne 6,5 tonnes de CO2 par personne. C'est le chiffre en France, en moyenne. Vous pouvez aller sur Internet, il y a plein de sites qui proposent de calculer vos propres émissions. Est-ce que quelqu'un connaît ces émissions annuelles de CO2 ? Vous l'avez déjà calculé? Eh bien, je vous invite à le faire sur Internet et puis vous donnerez les résultats à votre professeur. Donc, sur ce tableau, on voit que la famille consomme 40 000 km par an à une climatisation, un gros frigo, un chauffage pas très performant, mange sans trop se poser de questions et trie moyennement ses déchets. Et que si elle fait tous les efforts dont je vous ai parlé, on peut arriver à moins de 1 800 kg par personne. Ça veut dire qu'ils ont changé de voiture, qu'ils roulent moins souvent, qu'ils ont amélioré leur chauffage, qu'ils ont fait attention à ce qu'ils achetaient. Alors pourquoi nous n'agissons pas? J'ai fait des enquêtes sociologiques pour voir pourquoi les gens ne réagissaient pas par rapport au problème du climat. Et la plupart des gens, c'est peut-être ce que vous allez vous dire en sortant, eh ben ils se disent, pourquoi moi j'agirais alors que mon voisin ne le fait pas? Alors le voisin, ça peut être l'industriel d'à côté, le voisin qui a la voiture, la grosse voiture, ça peut être l'américain. On trouve toujours quelqu'un d'autre qui ne va pas agir et qui va justifier que nous, on n'agisse pas. Ça, c'est le voisin. Il y a les gens qui disent, oh, mais moi, j'y peux rien, c'est le destin, de toute façon, ça doit arriver. Et puis d'autres qui disent, ben, j'attends de voir, parce que on va tâter le terrain, on va voir si les autres se lancent, et puis moi, je suivrai la masse. Mais on a besoin de gens qui lancent la dynamique aussi. Et donc, pour bien commencer, normalement, on décide de commencer par quelque chose d'anodin et après, on va quelque chose de plus loin. Donc là, ce qui serait bien, c'est que vous vous réfléchissiez dans votre tête et que vous écriviez sur votre feuille ce que vous pourriez faire, une seule petite chose ou une grande chose, pour comprendre, pour prouver que vous avez compris et que vous êtes prêt à agir. Alors réfléchissez un instant dans votre tête, je veux du silence. Vous pouvez réfléchir, je ne sais pas, manger moins de viande, faire attention aux achats que vous faites. Je veux 30 secondes de silence pour que vous réfléchissiez. Vous pouvez l'écrire sur votre feuille. Et je citerai un sage indien qui s'appelle Shantideva qui dit « Si tu peux résoudre un problème, à quoi bon t'inquiéter? Et si tu ne peux le résoudre, à quoi bon te faire du souci ?» Et je trouve ça bien pour conclure parce que souvent les gens baissent les bras en se disant « C'est trop énorme, moi je ne peux rien faire » et puis souvent ça les tracasse. Ils disent « Bah quand même ça m'embête. » Donc en fait ça ne sert à rien de vous inquiéter, c'est la morale de l'histoire, puisque soit vous agissez et dans ce cas-là vous avez fait ce que vous avez pu, soit vous ne pouvez rien faire, mais là, en l'occurrence, vous pouvez faire quelque chose. Voilà, et pour conclure, une image de ce que sera peut-être Toulon, dans 5 ans. Donc on a